Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui derrière ce micro. Du changement pour Priorité Santé, comme Claire Hédon vous l'a annoncé vendredi dernier. Une voix différente, mais l'émission, elle, ne va pas changer. Priorité Santé va continuer à vous donner la parole, à vous écouter, à aller à votre rencontre pour parler de la santé de toutes et de tous et pour parler de la santé à travers le monde. Parler de la santé, de ces troubles qui créent un malaise ou peuvent parfois carrément gâcher la vie de ceux qui en souffrent, c'est ce qui peut arriver avec l'incontinence urinaire, c'est notre sujet du jour. Une réalité pour près de 4 millions de personnes en France, des troubles fréquents, pourtant on en parle peu. L'incontinence, c'est une maladie taboue, alors que nous allons le voir, des traitements, des solutions existent pour améliorer le quotidien de ceux qui sont touchés. Ces fuites urinaires peuvent avoir de multiples causes et dans certains cas révéler aussi d'autres pathologies. Alors à l'occasion de la semaine européenne de l'urologie qui débute aujourd'hui, on va aborder les questions de la prévention, de la rééducation, en soulignant que contrairement à pas mal d'idées reçues, eh bien l'incontinence ne touche pas seulement les personnes âgées. Avec nous en studio, le professeur Chartier-Castler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien urologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Nous retrouverons en deuxième partie d'émission le docteur Giscard Smith Olagui-Bilal, chirurgien des armées, urologue à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ndimba à Libreville au Gabon. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Priorité Santé vous donne toujours la parole. Notre numéro, vos questions et témoignages, 33 1 84 22 75 75. Alors, on le dit souvent, professeur Emmanuel Chartier-Castler, l'incontinence, c'est un sujet tabou, mais en parler, c'est déjà un pas très important pour envisager une amélioration.
Oui, et il y a eu d'énormes progrès dans notre société et dans les médias. Aujourd'hui, on peut parler d'incontinence. Aujourd'hui, on est centré sur l'incontinence urinaire, mais l'incontinence anale est aussi un sujet de préoccupation. Il faut reconnaître que nos outils thérapeutiques se sont énormément développés et je suis heureux d'entendre qu'on va parler de prévention. La prévention, ça fait partie aussi de la prise en charge et c'est certainement un des axes futurs de travail pour nous, praticiens. La prévention de l'incontinence avant ou après les accouchements, la prévention avant ou après certaines chirurgies. Voilà de quoi faire encore pour les années qui viennent.
Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par une petite leçon d'anatomie pour bien comprendre le fonctionnement de ce système urinaire, parce que parfois, il y a des termes. On les connaît, mais on ne sait pas forcément où ça se trouve. On parle du sphincter, du périnée. Petite leçon, essayez de... C'est pas toujours facile en radio, mais de visualiser.
Le sphincter, pour nos auditeurs, on peut l'imager. C'est comme un robinet. C'est ce système qui fait que lorsqu'on fait des efforts, le canal pour uriner, l'urètre est fermé. Alors en fait, on le sait pas, mais on a deux sphincters. On en a un qui fonctionne tout seul et automatiquement, qui fait que nous n'avons pas de fuite quand nous menons notre vie quotidienne et nous n'avons pas à y penser. Et puis un autre qu'on peut faire fonctionner de façon volontaire pour renforcer lors des efforts particuliers, puisque lorsqu'on fait un effort, la pression dans l'abdomen augmente et du coup, des fuites pourraient apparaître si on n'avait pas ces deux mécanismes qui se complètent l'un l'autre. C'est valable chez l'homme et chez la femme, mais c'est plus fragile chez la femme pour des raisons anatomiques et de brièveté de l'urètre, raison pour laquelle il y a plus de problèmes de continence chez les femmes que chez les hommes.
Deuxième terme, l'urètre, là on peut... imager cela en décrivant comme un tuyau, un conduit.
L'urètre, c'est un tuyau, c'est un canal qui sert à vider la vessie. La vessie, c'est le réservoir qui stocke les urines. L'urètre, c'est le canal qui permet de vider environ toutes les 3 à 4 heures quand on a une vessie de contenance à peu près normale et qu'on ne boit pas des litres d'eau dans la journée. Et les sphincters, c'est le robinet qui permet de ne pas fuir lorsqu'on mène sa vie quotidienne et qu'on relâche pour uriner puisqu'il faut bien ouvrir le canal pour que les urines passent lors de la miction.
Alors, il y a un autre terme très important. Certaines femmes, d'ailleurs, le découvrent au moment de leur accouchement. C'est le périnée. Elles découvrent non seulement le terme, mais la localisation précise. Comment décrire de ce hamac, de ce plancher musculaire sur leur anatomie?
Alors, effectivement, le périnée, c'est cette zone anatomique qui est située dans le petit bassin, au fond du petit bassin. Ce sont tous ces muscles et ces tissus qui servent à soutenir les viscères, tout ce qui est dans l'abdomen pour que ça ne, entre guillemets, ne tombe pas. L'être humain est devenu un être qui est sur ses deux jambes ou ses deux pattes arrière. Il s'est mis en position verticale contrairement aux animaux. Et donc le périnée chez l'être humain qui est debout est particulièrement sujet à des contraintes de force et de pression. Et donc il s'est renforcé au fur et à mesure que l'être humain s'est développé. Ce sont des muscles et ces muscles qui sont à la fois solides pour qu'au quotidien ça résiste, mais également capables de se relâcher pour assurer les fonctions pour uriner, pour aller à la selle et pour accoucher.
On parle d'incontinence urinaire. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'incontinence?
Oui, bien sûr. L'incontinence, c'est le fait d'avoir des fuites qu'on ne peut pas contrôler. Et pour nos auditeurs, c'est très simple. Il y a les fuites à l'effort. On tousse, on rit, on court, on marche et on a des fuites. On comprend bien que si on arrête les efforts, on ne fuite plus. Donc ça, c'est la plus simple à comprendre. Il y a un deuxième type d'incontinence qui est beaucoup plus difficile à traiter, mais qui est surtout beaucoup plus gênante, c'est l'incontinence par envie pressante. Dans notre jargon, on dit l'urgenturie. On a une envie pressante qui oblige à aller aux toilettes. En arrivant aux toilettes, ça peut être parti avant d'être arrivé. C'est une incontinence beaucoup plus difficile à gérer parce que c'est la vessie et le cerveau qui déclenchent l'envie d'uriner et qu'on ne peut plus contrôler. Alors ça, il y a des milliers de raisons d'avoir ça. Les deux peuvent être associés, ce qui complexifie le tableau. Mais le plus couramment discuté et ce que connaissent le mieux nos auditeurs, c'est l'incontinence à l'effort après les accouchements pour lesquels les femmes ont de la rééducation.
Alors, au-delà de la simple déclaration, comment le médecin, l'urologue ou la sage-femme, le ou la gynécologue pose son diagnostic?
Alors, le diagnostic d'incontinence, c'est une plainte de la patiente. Et on ne traite pas d'incontinence si le patient ne s'en plaint pas. En revanche, on peut faire de la prévention. Et aujourd'hui, dans la phase avant et après les accouchements, il est fortement conseillé aux patientes de faire de la rééducation. Alors d'abord pour connaître leurs muscles, parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs muscles. Ensuite, pour prévenir toutes ces mauvaises habitudes qui seraient de contracter l'abdomen alors qu'il faut le relâcher au moment des efforts, pour diminuer les pressions qui sont soumises sur le périnée. Et puis enfin, apprendre aux femmes, juste après l'accouchement, alors que le périnée se remet du passage du fœtus, du bébé qui est né, à contracter, à retrouver la force musculaire alors que les muscles reprennent leur place. Et ça, c'est un travail qui peut être commencé dès le deuxième mois après l'accouchement et qui nécessite un petit peu d'effort. La rééducation, c'est contraignant. Tous ceux qui ont eu un plâtre et qui ont eu un membre dans un plâtre ont bien vu que c'était compliqué, que c'était fatigant d'aller faire de la rééducation. Mais ça vaut le coup, parce qu'on sait que ça retarde les complications à long terme, notamment au moment de l'âge de la ménopause.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on disait que c'est mieux accepté dans certaines sociétés, mais comment expliquer, malgré tout, cette honte de le dire, de reconnaître que oui, je souffre d'incontinence urinaire?
Je crois pas que l'incontinence soit jamais acceptée par les patients. Elle a un coût qui est souvent un coût direct pour les patients parce que les protections ne sont pas remboursées par l'assurance maladie. L'incontinence, c'est surtout une gêne sociale et on sait, plein d'études ont été faites, l'incontinence a comme première conséquence la désocialisation. Les patients se rétractent sur eux-mêmes, n'osent plus sortir, ne sortent que s'ils savent qu'ils ont des toilettes à proximité. Et que ça soit chez des patients lourdement handicapés ou chez des jeunes femmes qui ont une incontinence sévère après l'accouchement, le but de la prise en charge va être d'abord de lever ce tabou et de leur apprendre qu'on peut s'organiser en attendant de traiter et qu'il ne faut surtout pas se recroqueviller sur soi-même.
Parce qu'il y a une dimension véritable de souffrance personnelle, voire de mise à l'écart.
C'est perçu comme une humiliation, c'est perçu d'abord comme une gêne individuelle, puis comme une humiliation vis-à-vis de l'entourage, avec cette sensation que décrivent très bien les patients, qu'ils vont être toujours regardés par les autres alors que les autres n'en sont pas forcément au courant.
Professeur Emmanuel Chartier-Kassler, nous allons prendre dans quelques secondes un auditeur en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Et cet auditeur, il est en ligne de Brazzaville, au Congo. C'est Aymar. Aymar, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Alors, posez votre question. Quel est donc ce témoignage que vous lui apportez à Priorité Santé?
Effectivement, Caroline, depuis la naissance de notre fille, je vis un calvaire avec ma femme. Elle n'arrive plus à se contenir quand elle rit et quand elle prend un verre. Cela devient un peu insupportable car elle mouille tous ses vêtements d'urine. Et pour éviter ce désagrément, elle est obligée de porter les couches afin de ne pas attirer les soupçons vers elle, bien entendu. Alors j'aimerais savoir, tellement que ça m'agace, énormément, et comment faire pour éviter ça.
Professeur oui. Chartrier-Castler.
Aymar, vous décrivez très bien le sujet dont nous parlions à l'instant, qui est celui de l'incontinence après l'accouchement. Alors on sait que les femmes qui ont accouché, si elles ont accouché de gros bébés, si elles ont été l'objet d'utilisation de forceps, ou ce qu'on appelle les spatules ou les cuillères dans le jargon populaire, on sait que ça peut majorer le risque d'incontinence. Et en fait, si votre femme est aujourd'hui incontinente, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est que les muscles ont été trop traumatisés, et ça va récupérer, mais votre fille a 2 ans, donc 2 ans, ça aurait dû récupérer, et donc ça mérite sûrement dès qu'elle soit examinée par un urologue. La deuxième hypothèse qui est importante à chercher, c'est ce qu'on appelle la fistule vésico-vaginale. C'est qu'à cause de l'accouchement, elle aurait pu avoir un traumatisme sur la vessie qui fait qu'elle aurait une fuite, non pas par le canal pour faire pipi, mais entre le vagin et la vessie. Et ça, il faut qu'elle soit examinée absolument par un urologue pour chercher cette hypothèse-là qui se guérit chirurgicalement. Et si par hasard, elle a simplement, malheureusement, été victime d'un gros traumatisme obstétrical, eh bien là, la chirurgie peut marcher. Ça peut être des bandelettes, ça peut être des techniques qui sont tout à fait accessibles au Congo, des techniques chirurgicales même sans prothèse. Et là, il faut absolument consulter localement.
Aymar, est-ce que vous pensez que votre femme, justement, pourrait envisager ce type d'opération? Et est-ce que vous-même, vous avez pensé à aller peut-être avec elle, voir un médecin à proximité?
Bon, effectivement, je suis tellement trop tenté. Je vais essayer d'en discuter avec elle. Vous savez, pour ces problèmes d'incontinence, c'est un désagrément total qui crée une psychose dans la famille. Une femme qu'on n'a pas connue comme ça. Mais tout de suite, dès qu'il y a une solution qui se présente, il faut sauter là-dessus pour que ça soulage tout le monde, quoi, bien entendu.
Merci beaucoup, Aymar, de votre témoignage. Nous allons maintenant entrer en ligne avec Fatima. Fatima, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous appelez de Bamako, au Mali. Votre témoignage.
Oui. En fait, j'ai été 2 fois opérée de la prothèse totale de la hanche. Et la première opération a été compliquée. Donc, jusqu'à ce que j'ai duré avec la sonde. À peu près 20 jours, j'ai fait 20 jours avec la sonde. Et depuis qu'on a enlevé cette sonde-là, je n'arrive pas à contenir l'urine. Quand j'ai envie d'uriner, il faut que je le fasse tout de suite.
Alors, Fatima, si on vous comprend bien, il y a eu cette sonde urinaire qui est restée pendant une longue période après une opération. Professeur Emmanuel Chartier-Castler, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Fatima?
Fatima évoque un sujet très important qui concerne tous les médecins qui sont amenés à prendre en charge des patientes et à leur mettre une sonde urinaire. La sonde urinaire en soi, pendant quelques jours, peut abîmer le canal de l'urètre, le fait d'avoir une sonde. Je pense que si vous avez une sonde, c'est que vos chirurgiens n'ont pas eu le choix pendant la période où vous étiez alité pour votre prothèse de hanche. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais plus on est âgé, plus le fait d'avoir une sonde pendant quelques jours peut abîmer le muscle et le canal qui sert à uriner, qu'on appelle l'urètre. Donc, oui, la sonde peut être une raison qui a aggravé ou démasqué, fait apparaître une incontinence. En revanche, votre incontinence, si elle est liée à un problème justement de muscle, de sphincter, ce fameux robinet pour se retenir, ça peut se traiter par différentes chirurgies et il faut consulter un urologue. Ça n'est pas inéluctable de rester avec ça. C'est pas la peine d'avoir des belles prothèses de hanche qui vous permettent de marcher si c'est pour ne pas marcher parce que vous avez des fuites quand vous faites des efforts. Donc je vous invite à consulter dans votre environnement le ou les urologues qui peuvent être présents au Mali, et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement.
Fatima, est-ce que cette réponse vous convient?
Ah oui.
Merci, merci infiniment. Bonne journée à Bamako. Faustin, en ligne de Goma. Bonjour Faustin.
Bonjour Caroline.
En ligne de République démocratique du Congo. Votre témoignage, Faustin.
Oui, mon témoignage, c'est qu'il y a une amie qui souffre de l'incontinence urinaire. C'est pour cette raison que donc j'ai pu poser quelques questions standards et afférentes. Notamment, quelles peuvent être les causes, les prises en charge. Et aussi, hein, mon ami veut savoir si le fait qu'il se confie difficilement et a tendance à uriner tout le temps, cela peut expliquer le fait qu'il souffre du diabète. Car jusque-là, il n'a jamais fait les diagnostics médicaux pour savoir de quoi il s'agit.
Alors, professeur Emmanuel Chartier-Kastler, ce lien entre diabète et incontinence, il est établi?
Alors, il est établi. Je ne sais pas si votre ami Faustin a d'autres maladies que le diabète, mais on sait que dans le diabète, il y a deux possibilités de troubles urinaires, de troubles du comportement de la vessie. Le plus courant, c'est que la vessie ne se vide pas bien. La vessie est devenue flasque, elle n'a plus de force de contraction. Et ça peut faire que du coup, votre ami, en fait, il a des fuites parce que sa vessie ne se vide pas. Et donc, il faudrait rencontrer un urologue qui l'aide à mieux vider sa vessie. Il y a des techniques médicales ou chirurgicales. Il y a une autre possibilité, c'est que dans les diabètes très anciens, très dépendants à l'insuline depuis 15 ou 20 ans, on peut avoir les petits vaisseaux qui commandent les nerfs de la vessie qui sont abîmés. Ça donne des vessies qui sont trop actives et ça donne des envies pressantes et des urgences, des urgenturies. Et c'est un symptôme qu'on connaît bien dans le diabète chez nos patients. Alors n'oubliez pas, Faustin, que quand les gens ont un diabète et qu'il n'est pas bien équilibré, le premier symptôme du diabète, c'est de faire pipi trop souvent parce qu'on élimine le sucre avec de l'eau et donc on a une grande quantité d'urine. Et de ce fait-là, on peut avoir une impression d'être incontinent parce qu'on va tout le temps aux toilettes parce qu'on a trop d'urine. Donc vous voyez, il y a plusieurs facteurs. Il faut les comprendre les uns après les autres. Conseil simple, regardez combien il a d'urine par jour et commencez par vérifier que la vessie se vide bien.
Faustin, okay. À Goma.
Ah oui, d'après ce que je comprends là, c'est qu'il doit vérifier si sa vessie se vide bien.
Effectivement, oui. Effectivement. Donc. Bonne journée à vous. On va rejoindre maintenant Abdoul Kadri qui est en ligne de Lomé. Abdoul Kadri, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Bonjour.
Alors votre question concerne non pas vous-même, mais votre père.
Oh oui, j'ai... Mon père, il a âgé de 74 ans, il souffre de l'incontinence urinaire.
Alors, comment et cela se manifeste-t-il? Cela se manifeste la journée, la nuit?
Non, la journée, il ne fait pas 5 minutes sans aller faire pipi.
Donc, votre papa, si je comprends bien, il va trop souvent aux toilettes dans la journée et il a du mal à se retenir quand il a une envie d'uriner.
Évidemment, c'est ça.
Voilà. Alors, à son âge, chez un monsieur, s'il n'a pas d'autres maladies ou d'autres handicaps, la première chose à laquelle on pense, c'est que la prostate peut être un obstacle. La prostate, c'est un organe chez l'homme qui est sous la vessie, qui est traversé par le canal pour uriner, qui s'appelle l'urètre. Et quand elle grossit, cette glande, elle peut faire que la vessie se vide mal ou qu'elle se vide en force. Et du coup, la vessie, pour se défendre, est trop sensible et on a des envies trop fréquentes d'uriner. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier la prostate, de vérifier là aussi comment se vide la vessie, comme l'auditeur précédent, et puis s'assurer qu'il n'a pas d'autres maladies qui pourraient expliquer ça. Parce qu'il n'y a pas que la prostate qui peut donner des envies fréquentes d'uriner à 74 ans.
Abdoul Kadri, cette réponse du professeur Emmanuel Chartier-Kastler. Une question, professeur, on a parlé, bonne journée à vous, on a parlé rééducation, des éléments de rééducation, de prévention aussi, opération, mais pas de médicaments. Est-ce qu'il y a des traitements contre l'incontinence urinaire?
Alors oui, et notre panel pharmacologique est assez important. En fait, il n'y a pas de médicaments pour l'incontinence à l'effort. L'incontinence à l'effort, c'est rééducation ou chirurgie. On a des médicaments pour les envies pressantes d'uriner et plusieurs classes de médicaments.
On va en reparler dans quelques minutes si vous voulez bien. On va se retrouver dans 3 minutes environ après les informations. On continue sur ce sujet de l'incontinence urinaire, briser le tabou. Vous pouvez nous appeler 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Toujours toujours en studio avec nous le professeur Emmanuel Chartier-Castler, chirurgien urologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors professeur, avant le flash d'information, on a évoqué des règles pour limiter les fuites urinaires, certaines solutions pour y remédier. On a entendu les auditeurs, cette fameuse rééducation du périnée dans certains cas des opérations. Et juste donc avant ce flash d'information, on évoquait les traitements. De quoi dispose-t-on également en termes de médicaments ?
Alors on possède des médicaments depuis plus de 30 à 40 ans, qui sont faits pour calmer la vessie. On appelle ça dans notre jargon les anticholinergiques. Ce sont des médicaments qui sont faits pour que la vessie, lorsqu'elle se remplit, se contracte moins et soit plus relâchée. Alors ces médicaments sont des bons médicaments. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des nouvelles molécules qui ne se prennent qu'une fois par jour, c'est plus simple à utiliser, et qui sont mieux tolérées du point de vue des effets secondaires, même si pour tous les patients, ces molécules ont la particularité de pouvoir donner la bouche sèche ou de la constipation.
Donc on l'a compris, ce n'est pas pour l'incontinence à l'effort.
Absolument, c'est uniquement pour l'incontinence par envie pressante. Et puis il y a une nouvelle classe thérapeutique qui est arrivée, qui n'est pas remboursée en France, mais dans certains pays européens elle l'est, qui est une classe qui agit aussi en relâchant la vessie, mais qui n'a pas les mêmes effets secondaires. Donc c'est intéressant parce que maintenant on commence à posséder un panel plus large de médicaments, entre guillemets, pour pouvoir sélectionner les effets secondaires en fonction de la tolérance des patients.
Alors, on le disait tout à l'heure quand on a évoqué notamment le cas de ce père âgé, 74 ans, qui allait sans cesse aux toilettes, peut-être la prostate en cause, ou alors le cas de ce monsieur qui avait des doutes sur un éventuel diabète. Ça veut dire que l'incontinence, ça peut, dans certains cas, finalement rendre service aux patients quand c'est un signal d'alerte.
Vous touchez du doigt un sujet très important. Nous, urologues, sommes presque des internistes, c'est-à-dire des médecins généralistes qui découvrons beaucoup de maladies à nos patients. Quand le signe d'appel que le patient croit être un problème de prostate ou d'incontinence standard est celui du trouble urinaire, de l'envie pressante, de l'envie fréquente ou de l'incontinence. Je vous donne quelques exemples que les auditeurs comprendront bien. Une maladie de Parkinson peut donner des symptômes à type d'incontinence, les séquelles d'un accident vasculaire cérébral qui est passé inaperçu, ou est très fréquent, notamment dans une partie de notre population aux Antilles, les canaux lombaires étroits ou les canaux cervicaux étroits. Ces problèmes de colonne vertébrale qui se rétrécissent et qui compriment un peu la moelle. Donc nous sommes habitués à détecter ces autres maladies en fonction du type de symptômes que présente le patient et bien sûr à travailler avec les médecins spécialistes en fonction de ce qu'on retrouve. On ne peut pas prendre en charge une incontinence si on ne fait pas le tour de ces causes-là chez les gens qui aujourd'hui, au moins dans la population française, sont de plus en plus âgés.
Professeur Emmanuel Chartier-Castler, vous restez avec nous et nous sommes en ligne à présent avec le Gabon, Libreville, en ligne avec le docteur Giscard Smith, Olagi Bilal, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes
bonjour professeur.
Vous êtes chirurgien des armées, un urologue à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba au Gabon, donc à Libreville. Est-ce que ces problèmes d'incontinence sont fréquents au Gabon ?
Je vous dirais d'emblée, oui, hein, vous savez, partout en Afrique, le problème d'incontinence urinaire est un problème, est un vrai problème social. Tout à l'heure, je vous écoutais, là, vous parliez de l'isolement complètement social de ces patientes. Mais en règle générale, je peux vous dire, en plus de l'isolement social, il y a un grand problème, c'est celui de l'entrave du sommeil. Pour vous dire une petite anecdote, il y a un patient qui a consulté pour son épouse qui l'empêchait complètement de dormir parce qu'il fallait qu'elle se lève tout le temps pour aller vider sa vessie. Donc, du coup, parfois, c'est pas seulement la patiente qui vient consulter, mais parfois c'est l'entourage, c'est l'époux. Et en Afrique, cette pathologie est tellement fréquente que nous, ici, nous classons cette pathologie dans le cadre des pathologies dites un peu pudiques, parce qu'en Afrique, il y a un peu ce côté qui ressort. Donc, un tiers de femmes au Gabon, donc une femme sur trois, souffrirait d'une incontinence urinaire. Un peu moins fréquent chez les hommes.
Mais quand ces femmes vont accoucher à l'hôpital, est-ce qu'il n'y a pas une information, par exemple de la part des sages-femmes, pour évoquer cette éventualité post-accouchement ?
Ah non, c'est très compliqué. En général, les patientes sont plutôt informées après l'accouchement. Après l'accouchement, dans le suivi de leur accouchement, quand elles commencent à décrire ces problèmes de fuite, et donc les sages-femmes nous adressent ces patientes pour essayer de faire le point et voir un peu qu'est-ce qu'il en est réellement.
Le professeur Emmanuel Chartier-Kassler, vous vouliez réagir?
D'abord, je voulais dire bonjour à Giscard. Je le retrouve alors que je crois qu'une partie de sa formation s'est faite à Paris et qu'on a dû se connaître ou se rencontrer lorsqu'il était au Val-de-Grâce. Ça me fait très plaisir de vous entendre. Un petit commentaire pour dire que la remarque de mon collègue qui travaille en Afrique sur le problème de la prise en charge de l'incontinence à l'international, moi je préside un comité dans le cadre de la Société internationale de l'incontinence où on essaie de développer toutes les pratiques qui peuvent être adaptées au pays en fonction de leurs moyens disponibles, parce que tout n'est pas disponible partout. Et ça s'appelle l'ICS, la Société internationale de l'incontinence fait tout ce qu'elle peut pour essayer de développer des outils thérapeutiques ou d'adapter les outils thérapeutiques en fonction des moyens de chaque pays. La Société internationale d'urologie fait exactement la même chose. Donc il y a des gros efforts et on se rencontre dans ces sociétés entre différents pays pour voir comment adapter nos moyens.
Précisément, les moyens dont vous disposez dans cet hôpital militaire où vous exercez à Libreville, Giscard Smith-Olagui-Bilal, est-ce que vous estimez qu'en tant qu'urologue, vous avez vraiment les moyens d'exercer votre spécialité?
Oui, en termes de moyens, oui. Après, faut se dire que dans la prise en charge réelle même de l'incontinence urinaire, il y a quelque chose qu'on essaie de faire très attention, c'est surtout l'anamnèse, le recueil des données de ces patientes-là. C'est-à-dire que entre l'interrogatoire de ces patientes et l'examen clinique, il doit être vraiment, vraiment exhaustif pour éviter de passer un peu à côté de beaucoup de choses, parce qu'on sait très bien que l'incontinence urinaire, c'est tellement complexe et que différentes formes d'incontinence peuvent se retrouver chez le même patient et parfois donc le traitement devient extrêmement difficile. Et sur le plan des examens, oui, on arrive à faire facilement un catalogue mixtionnel, un bilan urodynamique qui permettent un peu d'avoir le profil de chaque patient. Et surtout sur le plan du traitement, on arrive à faire un traitement vraiment optimal pour essayer de soulager et de soulager autant que faire nos patients. Donc en général, oui, on a un plateau technique, je dirais, suffisant pour pouvoir prendre en charge une incontinence urinaire au Gabon.
Giscard a entièrement raison. Et il y a un message pour les patients ou patientes qui nous écoutent. Une incontinence, ça peut pas se traiter en sortant de la consultation et de la première consultation. Ça nécessite de comprendre l'histoire, d'examiner. Il a parlé du catalogue mixtionnel, c'est un relevé sur un papier où les gens peuvent mettre les heures et les volumes quand ils urinent, ainsi que le nombre de protections qu'ils peuvent mettre. Tout ça, ça prend un petit peu de temps et ça se fait jamais en une seule consultation. C'est quelquefois, au moins dans mes consultations, une déception des patientes ou des patients qui repartent en disant « mais il m'a rien fait ». Ben, on ne peut pas traiter à la première consultation le plus souvent. Ça nécessite de comprendre le mécanisme de l'incontinence. Et le message qu'on essaie de faire comprendre aux patients, c'est chaque patient a un type d'incontinence avec un mécanisme pour cette incontinence. Quand on l'a compris, on peut bien traiter. Si on ne l'a pas compris, on n'arrive pas à les traiter correctement.
De la même manière, on l'évoquait tout à l'heure, Giscard Smith-Olagui-Bilal, ce n'est pas parce qu'on va à l'hôpital pour une incontinence qu'on va repartir avec un médicament, très loin de là.
Ah oui, très 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 loin. Et après, vous savez, en termes d'incontinence, c'est une pathologie qui est typiquement fonctionnelle. Donc, on essaie de faire extrêmement attention parce que le résultat, les patients sont très très, les patients sont très regardants sur les résultats. Donc, il faut vraiment être sûr du type d'incontinence pour pouvoir mettre un traitement médical, proposer la rééducation, puisqu'on le fait classiquement, on propose la rééducation en premier, et après le traitement médical va suivre plus tard en fonction, bien sûr, du type d'incontinence urinaire. Et en termes de traitement médical, oui, nos pharmacies sont assez riches, hein, pour nous donner les traitements qu'il faut, notamment les anticholinergiques.
Quelle structure existe justement en termes de rééducation des maisons de santé? Vers quels spécialistes ou praticiens aller consulter?
En général, on a des rééducateurs de santé, hein, des maisons de santé qui existent. Moi, j'en connais une qui fonctionne très bien. Je ne connais pas trop comment ça se passe de manière un peu physique, mais bon, les résultats sont souvent agréables. Donc on a des patients avec des très bons retours. Et sur l'hôpital militaire aussi, on a des rééducateurs qui s'en occupent aussi et qui font un travail formidable, avec des résultats aussi qui varient entre 50 et 70%.
Au professeur Emmanuel Chartrier-Kessler.
Oui, un petit message supplémentaire. L'incontinence urinaire, c'est souvent, et c'est, ça fait partie d'un trouble de la fonction du périnée, tous ces muscles qui soutiennent le petit bassin. Et donc, quand on prend en charge une incontinence urinaire, on se soucie toujours de savoir s'il n'y a pas une incontinence anale associée et s'il ne faut pas gérer les deux problèmes en même temps. L'incontinence anale, c'est plus compliqué à gérer. Il n'y a pas toujours des équipes de chirurgie colorectale ou de gastro-entérologue qui s'intéressent dans l'environnement où on travaille. Mais plus des équipes comme celle de Giscard ou comme la nôtre peuvent développer des prises en charge multidisciplinaires, mieux c'est pour les patients, parce qu'on arrive à mieux comprendre le mécanisme de leurs troubles et à les prendre en charge de façon plus globale. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la tendance dans nos organisations en France et c'est tout à fait intéressant pour les patients.
En tout cas, merci beaucoup, docteur Giscard Smith Olagibilel, d'avoir été en ligne avec nous de Libreville. Bonne journée.
Au revoir,
merci
Giscard.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous et au revoir, professeur.
Merci.
Et je rappelle que vous êtes sur place chirurgien urologue et andrologue à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Emmanuel Chartier-Kessler, vous le disiez tout à l'heure, le cerveau joue un rôle important dans cette transmission de l'information de cette envie d'uriner.
Oui, les patients ne le réalisent pas toujours, mais le mécanisme de la miction, le fait de vider sa vessie lorsqu'on est aux toilettes, est un mécanisme qui, certes, a un point de départ au niveau de la vessie quand elle est pleine, mais qui passe par le cerveau. Et donc, il faut, pour pouvoir uriner correctement et pour être continent, donc pour stocker correctement, il faut des voies neurologiques tout à fait normales et un cerveau qui n'ait souffert d'aucune maladie. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit et ça explique pourquoi on peut rencontrer des patients qui, avec l'âge, démasquent des petits troubles urinaires qui nous font découvrir une maladie neurologique.
Alors, nous allons prendre en ligne un auditeur. C'est Alain qui nous appelle de Kinshasa. Alain, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Votre témoignage, Alain.
Alors, moi, j'ai 23 ans et je souffre un tout petit peu de l'incontinence. Bon, je n'ai pas toujours bien défini ce qui se passe, mais au moins, à ce que je sache, c'est lorsque j'ai envie de pisser et ça urge un peu. Ça urge, il y a des fois où cela se fait répétitivement. Ah, voilà.
Et cela crée un malaise auprès de votre entourage, c'est difficile pour, je ne sais pas, vous êtes étudiant, vous suivez ou vous avez une profession ?
Je suis étudiant, en effet.
Alors Alain, en fait vous souffrez de ce qu'on appelle une énurésie, des envies d'uriner la nuit avec des fuites pendant le sommeil, et puis ça se manifeste également pendant la journée, j'ai compris, par des envies fréquentes et pressantes, ce qu'on appelle, nous, des urgenturies. Alors, en fait, on se réserve, bien sûr, que vous soyez examiné, et je pense que vous le faites ou vous le ferez auprès d'un urologue. Vous souffrez probablement de ce qu'on appelle une immaturité vésicale, c'est-à-dire certains patients ont une vessie qui est moins bien contrôlée par le système nerveux. C'est quelque chose, on ne sait pas où ça se situe dans le système nerveux, mais on sait que ça existe, et ça se traite d'abord très bien par les médicaments, ça se traite très bien par la rééducation. Et il faut absolument, à votre âge, vous faire soigner et, bien sûr, être absolument certain que vous n'avez aucune, je mets des guillemets, malformation de l'appareil urinaire. Vous aurez une endoscopie, c'est-à-dire qu'on regardera dans votre vessie pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Il faut vérifier que vous n'avez pas fait la bilharziose, parce que dans votre pays, on sait que la maladie de la bilharziose, ça peut donner trouble urinaire. Enfin, donc, rencontrez un urologue, il vous examinera, il fera une endoscopie. Et pour gagner du temps, allez le voir avec un catalogue mixtionnel.
C'est-à-dire avec cette fiche où vous
cette
notez...
Cette feuille où vous relevez les heures et les volumes quand vous faites pipi pendant 2 ou 3 jours. Ça apporte énormément d'informations aux médecins que vous irez voir. Mais Alain, il ne faut pas rester comme ça et je suis convaincu qu'on peut faire mieux pour vous.
Ça... Alain ?
J'avais aussi une préoccupation parce que dernièrement, je suis allé me faire examiner parce qu'il s'agit que je souffrais de la malaria. Et là, le docteur m'a dit que effectivement, avec les symptômes que je manifestais, j'avais aussi des infections urinaires. Et il m'a dit que les infections urinaires peuvent aussi être à la base de ces urgences d'envie d'uriner. et il m'a prescrit de médicaments, et du coup j'ai senti un petit changement, parce qu'il arrivait que contrairement aux autres fois, il arrivait que je passe des nuits 100% sortir, et c'est pas, est-ce que
alors Alain, vous évoquez le problème des infections urinaires. Alors attention, l'infection n'est peut-être justement que la complication d'un problème qui n'a pas encore été diagnostiqué. Donc traiter l'infection, c'est traiter le symptôme immédiat, mais ça ne règle pas le problème de fond. Donc n'en restez pas là, allez faire des examens. Et si vous faites des infections urinaires, c'est qu'il y a une petite anomalie dans l'appareil urinaire. Il faut absolument voir un urologue. Il est certain qu'au moment de l'infection, si elle est traitée, vous allez vous sentir beaucoup mieux, mais ça risque de revenir si le problème de fond n'a pas été recherché.
Alain, est-ce que cette réponse vous convient ?
Oui, ça me convient, effectivement. Merci, Caroline.
Bonne journée à vous. Nous allons prendre en ligne Raoul à présent. Raoul, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes en ligne de Douala au Cameroun. Vous évoquez le cas de votre fils. Vous nous avez indiqué ce fils est âgé aujourd'hui de 3 ans.
Oui, bonjour.
Bonjour Raoul.
Oui, en fait, mon fils a été opéré d'un spina bifida. Il a subi 4 opérations. Et là, actuellement, il a une incontinence anale et urinaire. Donc, on nous a fait comprendre à l'hôpital que c'était une conséquence de ces opérations.
Alors,
qu'il restera ainsi durant, à 99%, il restera ainsi toute sa vie. Je voudrais savoir s'il n'y a pas une solution pour lui.
Donc, vous évoquez le problème de votre enfant qui est né avec un spina bifida, c'est-à-dire une anomalie de la fermeture de la colonne vertébrale, et donc il y a un certain nombre de nerfs du bas de la colonne qui ne fonctionnent pas bien, ce qui explique l'incontinence urinaire et anale. Je ne sais pas si votre fils arrive à marcher ou pas. Et
il ne marche pas.
Voilà. Et quelles opérations il a subies ? C'était en neurochirurgie ?
Oui, en neurochirurgie.
C'est ça.
Au niveau du dos.
Au niveau du dos.
Voilà. Il a aussi une... il a aussi eu pour la tête, il avait l'hydrocéphalie.
C'est ça, il avait l'hydrocéphalie. Alors, il est probable que votre fils ait des troubles urinaires ou des troubles anorectaux, une incontinence anale, une partie de sa vie. Mais en revanche, il est très important, alors qu'il est très bien suivi, que vous vous en occupez admirablement pour qu'il soit bien soigné, que ces troubles urinaires soient pris en charge dès maintenant, dès la première enfance, surtout pour qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de retentissement sur les reins. La première chose qu'il faut surveiller chez votre enfant, c'est que ça ne donne pas une dilatation des reins et une insuffisance rénale. Après ça, les médecins et les urologues spécialisés, les pédiatres en l'occurrence, puisqu'il a encore 3 ans, s'occuperont de lui pour voir si on peut améliorer son incontinence. Mais surtout, contrôler les reins, demander au neurochirurgien de vous adresser à la bonne personne au Cameroun. Je ne connais pas tous les urologues camerounais, mais je sais qu'il y en a. Et le spina bifida, oui, donne des troubles urinaires et des troubles anorectaux parce que les nerfs qui commandent la vessie et l'intestin sont mal formés. Voilà.
Raoul.
Oui, Caroline.
Donc, ça veut dire, professeur...
Ça veut dire se faire suivre et surtout d'abord protéger les reins de son fils. Donc, vérifier que tout fonctionne bien. Et ensuite, des médecins s'occuperont qu'il ait une bonne vessie, qu'on refasse un sphincter qui fonctionne pas, qu'il ait un robinet qui assure la fermeture du canal de l'urètre. Tout ça méritera d'être évalué et reconstruit. Donc, il passera dans la main des chirurgiens pédiatres.
Une lourde prise en charge, Raoul. Au revoir, Raoul.
Au revoir, Caroline.
Ousmane est en ligne de Ségou, au Mali. Ousmane, bonjour.
Bonjour, madame.
Votre témoignage.
Ok. Bon, j'aimerais aider ma soeur qui est atteinte de l'incontinence urinaire dès à l'âge de 8 ans. Bon, nous avons cherché des remèdes auprès des marabouts, mais hélas, pas de résultat. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore allés consulter un médecin. Donc j'aimerais savoir s'il y a des médicaments pour soigner la maladie et d'où est-ce que ça vient.
Alors Ousmane, vous posez une très bonne question et puis c'est bien de vous soucier de votre sœur et de l'aider parce qu'elle doit être très malheureuse, elle ne doit pas oser en parler. Le problème est de savoir quel type d'incontinence est là. Hein, on revient à la question qu'on évoquait en début d'émission. Est-ce que c'est une incontinence à l'effort, quand elle tousse, quand elle rit, ou est-ce que c'est des envies pressantes, des envies urgentes? Et je pense qu'il s'agit plutôt de ça. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du paludisme parce qu'on en voit moins en métropole française qu'en Afrique, mais dans le paludisme, il peut y avoir une atteinte neurologique qui peut expliquer ce genre de choses. Donc ça, ça mérite d'être vu par des neurologues et des spécialistes locaux. Et si elle a des envies pressantes et urgentes, on peut lui donner ses médicaments pour calmer la vessie. Il faut juste vérifier que sa vessie se vide bien et qu'elle n'a pas une autre pathologie, c'est-à-dire une autre maladie. Donc, faut dire à votre sœur de se faire examiner par un urologue ou un gynécologue. À 20 ans, elle peut aller voir un gynécologue. Et elle aura sûrement une cystoscopie. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie locale. C'est la première chose à faire. Mais en tous les cas, continuez à la soutenir dans ses efforts parce que la pauvre, à 20 ans, c'est un peu dur.
Ousmane, en ligne de Ségou au Mali. Bonne journée à vous, Ousmane, et merci beaucoup d'avoir appelé Priorité Santé. Une question, professeur Emmanuel Chartrier-Castler. On a parlé tout à l'heure de cette période particulière pour les femmes qui peuvent devenir sujettes à l'incontinence urinaire. C'est après l'accouchement. Il y a une autre période, c'est la ménopause. Et vous l'évoquiez tout à l'heure rapidement en parlant des tissus féminins, de la question du collagène.
Oui, alors la ménopause est une période, une deuxième période clé en termes de continence et ce qu'on appelle dans notre jargon de statique pelvienne, c'est-à-dire toutes les anomalies qui peuvent survenir au niveau des muscles du périnée. Conséquence d'abord des grossesses et accouchements, puis de la perte du tonus hormonal. Les tissus ont besoin d'un statut hormonal correct. Donc aujourd'hui, on conseille aux femmes, bien sûr, d'avoir un traitement hormonal substitutif. S'il est contre-indiqué pour des raisons gynécologiques, et là, je n'ai pas d'avis sur la question, elles peuvent avoir un traitement local qui se met tous les jours ou plusieurs fois par semaine pour améliorer la trophicité, c'est-à-dire la qualité des tissus. Et on sait que c'est très important dans le maintien d'une bonne continence et d'une bonne qualité de vie dans la région périnéale. Donc, surtout, un conseil aux femmes ménopausées de se faire suivre par un urologue ou un gynécologue sur ce plan-là.
On l'a bien compris, hein, l'incontinence qui se traite peut-être d'abord par la communication
et
aussi.
La prévention.
Éventuellement la rééducation dans d'autres cas. En tout cas, il faut en parler pour être prise en charge et trouver des solutions susceptibles d'améliorer son quotidien et sa qualité de vie.
Priorité santé sur RFI.
Nous sommes lundi, le jour où nous retrouvons la chronique nutrition. Avec nous, Stéphane Besançon. Bonjour Stéphane.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète en direct de Bamako. Et aujourd'hui, on va parler de la consommation de graisse. Contrôler cette consommation, c'est important pour préserver sa santé. Elles sont souvent prises, ces graisses mises en cause pour expliquer des alimentations trop caloriques, l'augmentation du surpoids. Alors est-ce qu'il faut supprimer sa consommation de graisse pour rester en bonne santé ?
Alors, je dirais pour commencer, non, car on ne peut pas supprimer sa consommation de graisse, car ces nutriments que l'on appelle scientifiquement les lipides sont indispensables pour le fonctionnement de notre organisme. En effet, on peut retenir trois rôles très importants joués par les graisses dans notre organisme. Le premier, qu'ils fournissent de l'énergie pour le fonctionnement de notre corps. Le deuxième, qu'ils sont un constituant essentiel des membranes de nos cellules. Et enfin, ils participent au développement de nombreux processus comme le système nerveux, le système reproducteur, mais aussi notre système de vision.
Alors Stéphane, quels sont les risques justement liés à cette alimentation trop grasse ?
Alors il faut d'abord bien rappeler que chaque gramme de graisse qui est ingurgité apporte deux fois plus de calories que les sucres ou les protéines. C'est ce qui explique pourquoi leur consommation doit être contrôlée, pourquoi les excès sont massivement stockés par notre organisme, qui va amener le surpoids et l'obésité en excès. Cette accumulation de graisse, surtout si elle est abdominale, augmente les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies qui vont toucher le cœur et les vaisseaux sanguins. Il y a aussi un risque lié au rôle des lipides dans les maladies cardiovasculaires elles-mêmes, notamment dans ce qu'on appelle scientifiquement l'athérosclérose. Alors c'est un épaississement de la paroi artérielle qui va former une plaque d'artérome qui peut gêner la circulation sanguine. Si on aboutit à une obstruction trop forte d'une de ces artères qui approvisionne le cœur, il peut y avoir un infarctus du myocarde. Et si c'est une artère qui approvisionne le cerveau, on parlera d'accident vasculaire cérébral. Donc en plus des facteurs qui sont non modifiables pour ces maladies, qui sont l'âge ou les antécédents familiaux, de nombreuses études mettent en lumière le rôle d'un taux élevé de graisse et particulièrement un taux élevé de cholestérol et de triglycérides dans le risque de maladies cardiovasculaires.
Alors justement, regardez du côté de nos placards, quels sont les aliments riches en graisse dans notre alimentation quotidienne ?
Alors, il y a tout d'abord les aliments qui sont, j'allais dire, faciles à voir, qui sont les graisses visibles, faciles à identifier. Il s'agit, par exemple, des huiles, comme l'huile de tournesol, l'huile de palme, d'arachide ou encore de coton, mais aussi le beurre, la margarine ou encore le beurre de karité pour les personnes qui nous écoutent en Afrique. Ensuite, il y a les aliments un peu plus mesquins, j'allais dire, puisque c'est des graisses dites cachées. Elles ne sont pas visibles directement. Il y a, par exemple, les arachides, les avocats, les œufs, la viande rouge, la noix, le lait concentré, la mayonnaise et plus largement un très grand nombre d'aliments industriels et aussi bien sûr les fromages. Alors pour les fromages, il faut savoir une règle simple, c'est que plus la pâte du fromage est dure, plus ils sont riches en graisse. Enfin, il ne faut pas oublier aussi que les plats préparés en friture sont aussi très gras, par exemple le poisson frit, les bananes plantains frits ou encore les beignets, mais aussi de nombreux aliments sucrés sont aussi très gras. C'est le cas des croissants ou encore des gâteaux et des glaces.
Alors, quelles sont les recommandations pour adopter une consommation globale adéquate en graisse ?
Alors, déjà, la chose la plus simple, c'est qu'il faut limiter les quantités de graisse, j'allais dire, qui sont rajoutées et qui vont être surnuméraires, comme quand on prépare, par exemple, un riz avec de la sauce arachide, c'est pas la peine de remettre de l'huile encore par-dessus. Il va falloir aussi faire attention à toutes les graisses d'origine animale et tous les aliments qu'on appelle aujourd'hui des aliments ultra-transformés, c'est-à-dire les aliments venus de l'industrie qui ont souvent une très grande quantité de graisse cachée. Et enfin, ce qu'il faut être qui est très important à savoir, et je réinsiste dessus parce que c'est souvent la question qu'on a, c'est cette question de l'huile, surtout en Afrique, qui est consommée en excès. Il faut en général, c'est ce que nous demandent les auditeurs, compter une cuillère à soupe par personne d'huile pour le plat qui va être consommé, pour limiter au maximum et éviter de prendre la bouteille et de la retourner entière dans la sauce ou dans le plat.
Merci beaucoup Stéphane Besançon et à la semaine prochaine. Cette émission Priorité Santé touche à sa fin, consacrée donc à l'incontinence urinaire. Merci beaucoup professeur Emmanuel Chartier-Castière pour toutes ces explications. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Demain, nous évoquerons la question des adolescents en détresse et vous pouvez bien sûr nous appeler 33 1 80.
Priorité Santé avec Sono Assurance. Notre métier, la